Théologie en liberté. Présenté par Michel Jass.
Bonjour ou bonsoir, Michel Jass, Théologie en liberté. Alors je suis heureux cet après-midi d'être avec Jean-Claude Martin, que j'ai rencontré il y a quelques années. J'ai d'abord beaucoup entendu parler en bien de lui, comme des responsables d'Évangélie Liberté, des journées, de l'association, au moment où moi je prenais un peu de recul et on s'est un peu succédé. Et puis Jean-Claude, je t'ai rencontré ici à la Maison du Protestantisme à Nîmes pour l'animation du groupe local Évangélie Liberté. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Heureux d'être avec toi pour ce moment. Donc, à la Maison du Protestantisme, on a deux groupes qui se ressemblent un peu, hein, avec Didier Travier sur la philosophie, et donc c'est un groupe mensuel. Et puis un autre groupe avec toi, c'est toi l'animateur, Jean-Claude Martin. Et voilà, alors je suis heureux de parler avec toi, faire connaissance un peu avec toi, avec ton origine, ton parcours personnel, et puis parler du protestantisme, de la foi, et du protestantisme libéral surtout. Alors, je crois que tu as une double... Non, tu es Cévenol.
Alors, je suis né à Alès, dans une famille qui est à la fois protestante et Cévenol.
Voilà.
J'ai eu une éducation religieuse très traditionnelle, en fait, avec des pasteurs comme le pasteur Chesing, le pasteur Grelet, le pasteur Desplanques dans les années 60.
Ah, c'est ça, oui.
Très traditionnel, en fait. Hein.
Mais en fait, même tu m'avais dit que tu remontais jusqu'au pont de Montvert, hein, ses grands-parents.
Alors les origines familiales, oui, effectivement, c'est autour du pont de Montvert, c'est vraiment le cœur des Cévennes, en fait.
Les Hautes Cévennes. Hein,
les Hautes Cévennes, exactement. Et des deux côtés de ma famille, en fait, il y a assez longtemps.
Et Calvisson, parce qu'en fait, tu vas parler de... En fait, oui. tu as travaillé, vous avez vécu et vous habitez toujours avec ton épouse à Marseille.
Alors, on est toujours Marseillais, mais on va effectivement, dans quelques temps, se replier sur Calvisson, en fait. Hein.
Oui, parce que c'est ton épouse qui est originaire.
C'est mon épouse qui est originaire de Calvisson.
Aussi du milieu protestant.
Du milieu protestant aussi, oui, on s'est rencontrés.
Et tu as vu des différences entre le protestantisme de Marseille, de Calvisson
pas tellement. En fait, à Alès, on avait deux types de protestantisme, en fait. Hein. Le protestantisme réformé, en fait. Hein. Mon père est d'origine réformée et ma mère était d'origine évangélique. En fait. Donc j'ai vu un petit peu les deux façons de voir. J'ai fait du scoutisme, à la fois comme louveteau, éclaireur, puis chef de troupe, en fait, hein, ouais. dans des unités qui étaient au départ à Salindres, qui étaient réformées, et ensuite à Alès, qui étaient évangéliques.
Ah, oui,
mais au niveau du scoutisme, on n'avait aucune différence.
Oui.
Il y avait vraiment... la façon de voir était la même, et nos attitudes, nos comportements absolument identiques, en fait. Hein.
Mais on disait aussi que les EERI, enfin, c'est les évangéliques d'Alès, à l'époque, étaient assez proches des réformés.
Bon, Tout à fait. On avait de très bons rapports. Ouais. D'ailleurs, notre chef d'unité globale sur le district était Jean-Paul Pascal, qui était plutôt évangélique, en fait.
Hein. Oui.
Mais on a vraiment une communauté de façon de faire, en tout cas, qui était... excellente, en fait.
Alors, tu aurais pu être pasteur, parce que nous sommes tous théologiens en tant que protestants.
Comme dit Raphaël Picon, effectivement, tous théologiens.
Tous théologiens.
Mais
tu as fait autre chose.
Non, j'ai fait autre chose. Au départ, j'étais attiré par l'histoire, essentiellement. J'ai fait du latin jusqu'en seconde, en fait. Hein, et j'étais très attiré par la mythologie grecque, en fait. Hein.
Ah ouais.
Et en seconde, il y a eu un événement qui était vraiment décisif et qui a bouleversé complètement ma vie. Cette année-là, j'ai eu comme professeur M. Dessayen, qui était mon moniteur d'école biblique l'année précédente.
Ah, ouais.
Et là, ça a bouleversé complètement mon orientation d'une carrière de professoral. J'ai toujours voulu être professeur.
Ah oui.
Mais du côté historique, je suis passé au côté mathématique, parce qu'il était professeur de mathématiques, il m'a passionné pour cette matière.
Je
me suis lancé là-dedans. Et donc, j'ai eu ensuite de très bons professeurs en mathématiques, ce qui m'a permis de faire une classe préparatoire.
Oui.
Et à l'issue de deux années de classe prépa, j'ai intégré ce qu'on appelait à l'époque des IPES, qui étaient des instituts de préparation à l'enseignement secondaire.
Oui.
Et là, on avait un double avantage. D'une part, on était rémunéré. on avait le statut d'élève professeur et on avait l'écrit du CAPES. Donc on n'avait plus que l'oral à passer. C'est quelque chose qui m'a, qui m'a intéressé à ce moment-là, en fait.
Ah oui.
Et, en fait,
et donc tu as enseigné les maths.
Alors après, j'ai enseigné les maths. Oui, j'ai enseigné les maths. J'ai connu, grâce au scoutisme, mon épouse en 73. On s'est mariés en 76. En 77, on a eu notre premier enfant. Oui. Et exactement le 9 mai 1978, notre deuxième enfant, Mathilde, le jour où j'ai terminé les écrits de l'agrégation.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Ma femme avait accouché pendant la nuit. J'ai appris, effectivement, elle a accouché toute seule. Et j'ai appris ça le lendemain, à midi, en sortant de la dernière épreuve d'agrégation. Et à partir de là, mon premier poste a été à disposition du recteur au lycée de Lamperie à Provence.
Oui.
Je suis resté là après, pendant 4 ans. Et j'ai rejoint le lycée Thiers.
À Marseille.
À Marseille.
Parce qu'au début, quand tu me disais le lycée Thiers, je pensais à Thiers, la ville.
Non, oui, tout à fait. C'était le lycée Thiers à Marseille.
Ouais.
Bon, qui est un très bon lycée. C'était une chance extraordinaire de pouvoir rentrer là, professeur en classe préparatoire. J'ai fait 10 ans en maths sup.
Oui.
Et 25 ans en maths sp ensuite.
Et les maths ne t'ont pas éloigné de la foi ?
Pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire, c'est là que j'ai rencontré Marcel Legault, qui est lui-même un universitaire, est normalien.
Prof
de maths, il était professeur à l'université de Rennes.
Oui.
Et il a, juste avant la guerre, ou au début en tout cas, laissé tomber complètement l'enseignement pour se consacrer à une vie un petit peu monastique. Il est devenu berger.
Il s'est retiré dans la Drôme. Oui.
Dans un tout petit village, des granges.
Ouais.
Et on a eu la chance de le rencontrer parce qu'on faisait à cette époque-là partie d'un groupe de jeunes ménages.
Oui.
Ménages mixtes, protestants, catholiques, avec donc de pasteurs que vous connaissez bien, puisque c'était le pasteur Francis Wilm et puis Raymond Daudré, qui était notre autre... accompagnateur, c'est ça. Et on avait un père jésuite qui s'appelait Jean Magnan et qui était un intime de Marcel Legault.
Ah oui, d'accord.
Et il nous l'a fait connaître avec, non pas la bénédiction, mais en tout cas l'autorisation de nos pasteurs qui nous disaient, mais oui, mais finalement, il a un discours qui est un peu surprenant pour des personnes qui ont un enseignement très traditionnel, en fait. Hein.
Oui.
Mais qui est tout à fait acceptable. Et donc, on a suivi ces sessions de 83 à 90. Ah. Tous les ans, on avait une session qui durait un bon week-end avec Marcel Legault. Il venait et on était en petit groupe, ce qui était absolument génial. On était en petit groupe et on suivait sa pensée parce que ses livres sont extrêmement compliqués à lire. On avait essayé de lire un petit peu au départ ses ouvrages. C'est très difficile d'y rentrer, les phrases sont très longues, mais il est d'une simplicité surprenante lorsqu'on l'écoute. Oui. Et surtout, il nous détaillait sa pensée en redéfinissant son vocabulaire. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a suivi ça pendant 7 ans, donc, jusqu'en 90, où il est mort sur le quai de la gare en venant à une session à Marseille où il devait nous rencontrer.
Oui. Ah d'accord. Alors en fait, Marcel Legault est connu comme un des théologiens, enfin il est devenu théologien, mais il a quand même influencé beaucoup de chrétiens catholiques, donc dans le catholicisme, mais très libéral. Et en fait, c'est là où il y a une proximité entre ces catholiques d'ouverture, très Vatican II, très ouvert vers la philosophie, vers une compréhension humble et profonde du christianisme et le protestantisme libéral. Et nous, je te l'avais dit, parce que tu vas parler du protestantisme libéral, puisque tu es l'animateur d'Évangile Liberté, l'organisateur des journées Évangile Liberté à 7. Mais en fait, pendant des années, on avait un petit groupe de catholiques qui venaient, mais qui étaient liés à la fraternité de Marcel Legault.
D'accord. Oui, mais je crois que le problème de Marcel Legault, c'est qu'en fait, son enseignement a été... tout sauf dogmatique, en fait. Il mettait Jésus au centre de sa réflexion, en fait. Ce qu'il essayait de voir, c'est comment Jésus avait découvert sa mission et comment il l'avait accompli avec un cheminement qui était tout fait d'intériorité, en fait.
Oui, et puis c'est un écologiste avant l'heure.
Avant l'heure, puisqu'il était berger, en fait. Donc il est resté aux granges pendant 10 ans sans rien écrire.
Ouais.
à méditer, en fait, à affiner sa compréhension de la Bible et du cheminement de Jésus, en fait.
Et est-ce qu'il parlait de Lanza del Vasto? Parce que au-dessus de Montpellier, on connaissait aussi cette personnalité un peu écologiste dans l'Arche.
Enfin, je n'en avais pas de souvenir, en tout cas.
Il n'en parlait pas. C'est quand même un itinéraire un peu parallèle, quoi, finalement.
Non, on avait vu... Il nous avait parlé de Louis Evely, par exemple, qui avait écrit un ouvrage sur ce Dieu non tout-puissant, en fait, qu'on retrouvait tout à fait dans...
Et Louis Evely écrivait dans l'Évangile Liberté. Il s'était marié, c'était un prêtre défroqué.
Oui, voilà, exactement. Ouais.
Mais
oui,
tout à fait. Qui se sentait protestant, finalement.
Tout à fait. Il avait une pensée, et dans ses ouvrages, ça se ressent, en fait. On est très proche, en fait, dans cette approche de Dieu, en fait, qui est absolument non dogmatique, en fait, en mettant en avant plutôt, disons, la bonne conduite plutôt que la bonne doctrine, en fait.
Une sorte de transfiguration, finalement, poétique, méditative, et puis dans l'action,
plutôt l'orthopraxie, disons, que l'orthodoxie, en fait. Oui. Voilà, c'était un peu son approche. Et il nous disait d'ailleurs, dans son cheminement, et il nous faisait le geste, il nous disait, vous savez, le chemin, c'est Jésus, en fait. Et puis, au-dessus, on ne sait pas vraiment. Il y a des choses qui sont inconnaissables par droit, en fait. Des choses qu'on ne saura pas et qu'on ne peut pas connaître, en fait.
Oui.
Voilà. Et ça nous donnait une approche qui nous permettait, disons, à nous, scientifiques, de ne pas tomber sur des contradictions
des faux combats, quoi.
Exactement.
Finalement,
oui. Ces problèmes, ce qui était soulevé par le problème du mal avec un Dieu tout-puissant, en fait. Hein. Oui. C'est quelque chose qu'on éliminait complètement parce qu'on se détachait absolument des dogmes qui avaient été établis au Concile de Nicée, en fait, puis à Chalcédoine par la suite, en fait. Hein. On était vraiment détachés de ça. On était centrés sur une vie intérieure plutôt qu'un respect des dogmes, en fait, hein, plutôt sur la réflexion que sur l'application et le respect d'un certain nombre de règles, en fait. Hein, voilà.
Mais tu as gardé des contacts avec l'Église protestante, quoi, finalement, à Marseille.
On était toujours dans l'Église protestante à Marseille. On participait au culte, en fait. Hein. Moi, j'avais fait de l'entraide scolaire dans le cadre de la paroisse, puis ensuite dans le cadre de la Fondation Bacué, qui est une maison d'enfants, en fait, hein, dans lequel je suis devenu administrateur un peu de temps après, en fait. Hein. Mais on était vraiment inclus dans la paroisse, mais on avait cet enseignement qu'on a suivi après 1990, en fait, donc après le décès de Marcel Legault, avec Thérèse de Scott. Thérèse de Scott qui organisait dans un centre spirituel
de Mirmont.
Qui était aux collines de Frémaux
à Marseille.
À Mirmande, oui, effectivement.
À Mirmande, oui, d'accord.
Oui. C'était là, dans la Drôme, en fait.
Oui.
Et on allait régulièrement dans ce centre pour travailler les écrits de Marcel Legault, parce que Thérèse de Scott s'est consacré à ce travail-là, à diffuser la pensée de Marcel Legault.
Oui. Et dans le protestantisme libéral, je me souviens, on essayait de structurer un peu l'orientation de catholicisme libéral. Mmh. Alors on avait des gens qui représentaient le groupe Marcel Legault, et on avait des Suisses qui représentaient la pensée de Maurice Zundel. C'est assez proche aussi.
Bien sûr. Et là,
il y a une finalement, quand dans les religions on devient libéral, on se rapproche les uns des autres. C'est
exactement.
On va vers l'essentiel, qui est une rencontre du sans nom, enfin Dieu, l'au-delà, et puis dans une sorte de bonté, de gentillesse qui vient des textes premiers, quoi.
Tout à fait.
Avant l'histoire des interprétations et des...
Oui. Il n'y a plus ces problèmes de dogmes qui séparent, en fait, hein, de doctrine qui oblige à considérer l'autre comme dans l'erreur, en fait. Hein.
Oui.
Et je crois que c'est quelque chose qui conduit au respect de l'autre, en fait. Hein. Il faut dire que l'origine du protestantisme libéral, on le trouve dans la condamnation de Michel Servet, en fait, en 1553, où Calvin le condamne au bûcher, et Sébastien Castellion s'élève contre ça, en fait, en disant, c'est pas... Finalement, il prononce cette phrase célèbre, hein, tu es un homme, c'est pas défendre une idée, c'est tuer un homme.
C'est tuer un homme, ouais. Voilà.
à partir de là, c'est une approche qui a un profond respect pour les autres religions, pour les autres sagesses, en fait.
Oui.
En considérant que la révélation n'est pas unique, en fait. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important de considérer que nous ne sommes pas détenteurs d'une vérité.
Oui. On va faire une pause musicale avec la musique que tu as choisie et que tu aimes bien. Et on est sur Radio Alliance Plus, Théologie en Liberté, avec Jean-Claude Martin. On reprend notre entretien, ce débat, cette réflexion sur le protestantisme libéral. On est à Théologie en Liberté, Michel Jasse au micro, avec Jean-Claude Martin. Et d'ailleurs, dans le protestantisme libéral, je me souviens, donc à Évangile Liberté, on avait Vincent Schmitt qui était pasteur à la cathédrale de Genève, et il avait fait, mais c'est une chose qui est peu connue du côté français, parce qu'il y a une frontière vraiment, d'un côté c'est la Suisse avec Genève, et puis de l'autre côté la France, mais en fait on aurait pu en parler un peu, mais il avait rencontré plusieurs fois le Dalai Lama, et il a fait prêcher lors d'un culte dimanche matin à la cathédrale de Genève.
Oui, c'est sûr.
Et en fait, le Dalai Lama, il avait un grand respect pour le christianisme et pour le christianisme protestant. Et donc, il a prêché sur un texte de l'Évangile, il a montré les parallèles avec Bouddha et puis la spiritualité des moines tibétains. Et en fait, voilà, donc c'est possible. Et je sais que nos amis qui sont dans la paroisse protestante libérale de Paris à l'oratoire du Louvre.
Oui.
Bon, ils font prêcher, ils ont fait prêcher plusieurs fois les femmes pasteurs, les femmes rabbins oui. de Paris.
Exactement.
Et un musulman qui a prêché, qui a accepté de prêcher, de rentrer dans les cadres de l'Église réformée pour prêcher, et puis en fait vers l'essentiel de la foi qui nous réunit.
Oui, mais dans les journées Évangile Liberté, on a très souvent des rabbins.
Oui.
Ou des théologiens musulmans, en fait. Hein.
Oui.
Bon, on n'a jamais eu d'imam, en fait, hein, mais on a des théologiens libéraux musulmans qui interviennent, en fait, hein, et
oui.
qui, des journalistes ou des théologiens qui apportent leur façon de voir l'islam, qui n'a rien à voir avec l'islam rigoriste et...
L'islamisme.
Voilà, l'islamisme.
Qui est politique.
Fait, hein. Tout à fait, qui est politique, ouais. en fait, hein, qui n'a rien à voir avec...
Et d'ailleurs, alors je vais lire ce texte qui présente la profession de foi un peu d'un protestantisme libéral et qui a été écrite par Pierre-Yves Ruff, qui est aujourd'hui malade, mais qui, à l'époque, avait été pasteur à l'oratoire du Louvre à Paris, et qui a écrit, et ça présente bien la sensibilité du protestantisme libéral. « Je ne croirai jamais que Christ est mort pour moi. Je veux croire qu'il est vivant pour nous tous. Je ne croirai jamais en un Dieu qui serait là pour nous juger. Je veux croire en Dieu qui nous accepte tel que nous sommes. Je ne croirai jamais que l'enfant qui vient de naître porte le poids d'un péché qui eut lieu des millénaires avant sa venue au monde. Je veux croire à la positivité de la vie, au geste inaugural de commencement absolu, présent en toute naissance, etc. etc. Je ne croirai pas, ceci, je ne croirai pas. Et en fait, je veux croire, et puis c'est une autre dimension qui est beaucoup plus généreuse et ouverte aux uns et aux autres.
Oui, c'est sûr, parce qu'en fait, ce symbole des apôtres qu'on lit encore souvent dans les églises, a été fait pour avoir quelque chose de commun avec l'Église catholique, en fait, hein, pour concilier en fait, un certain nombre de traditions avec une évolution un petit peu moderne. Mais c'est vrai que ce texte-là est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on peut penser et qu'on peut proposer, oui. Disons.
Et en fait, donc, alors après, tu as pris des responsabilités dans le mouvement du protestantisme libéral. Dans le comité qui se réunissait à Montpellier pour organiser les journées.
Alors après, c'est en 1995 qu'on a eu comme pasteur Jean-Marie de Bourquenay, qui est une des figures du protestantisme libéral, oui. Et qui nous a présenté, d'une part, sur le plan théologique, la théologie du process, et qui nous a aussi fait découvrir Évangile et Liberté.
Oui, alors la théologie du process, ça t'a allé très très bien, parce qu'en tant que matheux, finalement, ça a été fondé par des physiciens et des mathématiciens qui ont voulu dialoguer entre la foi et les sciences dures.
C'est exactement ça. Ce qui est intéressant dans cette théologie, c'est qu'elle est compatible avec tout ce qu'on connaît sur le plan scientifique, sur le plan... biologique, en fait, et qu'elle ne met pas en avant des dogmes qui conduisent tout de suite à des contradictions, en fait. Et c'est vrai qu'on ne réfléchit pas, au départ, en tout cas, ça a été mon cas, lorsque j'ai eu cet enseignement religieux qui était extrêmement traditionnel, lorsqu'on me parlait de la création, lorsqu'on me parlait de l'homme fait à l'image de Dieu, en fait, de cette résurrection qui était une résurrection biologique, en fait, on ne se pose pas vraiment ce genre de questions quand on nous le propose, en fait. Oui. Jeune, on n'a pas ce filtre, de rigueur, en fait. Mais plus tard, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de contradictions, et à partir de là, on est obligé d'évoluer, en fait. Et la théologie du process a quand même cet avantage, c'est qu'elle est compatible avec tout ce qu'on peut dire sur le plan scientifique, en fait. L'évolution, oui. De l'homme, Darwin a expliqué ce que c'était. Copernic, Galilée, on parlait du cosmos, en fait. Hein, et on n'est pas en contradiction avec ces notions-là, en fait. Hein. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui, pour un scientifique, est quand même beaucoup plus agréable, en fait.
Oui, oui, oui. Mais de toute façon, les premiers théologiens, alors ce sont des théologiens américains, protestants, très libéraux, et qui ont fondé cette théologie. Il y a une revue, le Process Review, il y a beaucoup de livres, avec John Cobb, etc. Plusieurs théologiens qui ont lancé ce courant qui prend la relativité d'Einstein pour essayer de relire la Bible et voir qu'il y avait eu des affirmations dogmatiques qui ont été imposées à la Bible, mais qui finalement ne correspondaient pas au texte ancien.
Bien sûr, bien sûr.
Dans la Bible, on voit que Dieu évolue, Dieu est en dialogue avec l'humain, etc. Et c'est pas un Dieu tout-puissant qui serait extérieur, qui serait dominateur. Enfin, c'est un peu autre chose. Et c'est ce que Jésus est venu nous rappeler.
Exactement. C'est exactement ce qui se passe dans les théories physiques, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la physique de Newton, et puis ça a été une première approximation. Et puis ensuite est venue la relativité, et puis la relativité générale, et maintenant la mécanique quantique, en fait. Hein.
Oui.
Et on conçoit que la mécanique quantique, quand on fait fonctionner un téléphone portable, on conçoit qu'effectivement, c'est quelque chose de réel, en fait. Hein, ça fonctionne, en fait. Hein. La mécanique, la relativité générale, l'observation de l'espace montrent qu'effectivement, c'est quelque chose de cohérent, en fait. Hein. Donc, on ne peut pas en rester à des approximations qui sont lointaines de la réalité. Mais chacun peut se contenter de la théorie dont il se sert, en fait. Hein.
Oui.
Bon, Bon, y a peu de monde actuellement qui croit que la Terre est plate et qu'on est au centre de l'univers. Mais, mais voilà, mais à partir de là, qu'on pense que le Soleil tourne autour de la Terre ou que la Terre tourne autour du Soleil, finalement, ce n'est pas très gênant pour la vie quotidienne. En fait, hein. Voilà. Donc, à partir de là, c'est un grand respect, une grande tolérance par rapport à tous, en fait, hein, une approche qui serait plus évangélique, en fait, hein, oui. Une approche qui est différente, en fait, hein, je crois.
Oui,
que,
oui. Voilà. Il y a une liberté dans l'orientation libérale de la foi chrétienne, il y a une grande liberté. On peut être très proche des courants évangéliques, mais ouvert.
Bien
et,
sûr.
Et puis, alors, on peut être presque rationaliste. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien le pasteur Wagner qui disait je ne crois rien. Alors là, tout le monde dit, monsieur le pasteur, attention, c'est très grave. Je ne crois rien, mais j'espère tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'une autre façon. J'espère, c'est-à-dire qu'il y a un au-delà de la vie qui peut être présent, mais je ne sais pas, je ne peux pas le décrire, le fossiliser. Je n'ai pas une assurance comme on a une assurance sur les choses d'ici-bas. C'est Et ça. Alors, en fait, moi, j'aime beaucoup notre groupe que tu animes ici à Nîmes, la Maison du Protestantisme, une fois par mois, parce que les gens, on se sent bien. On peut se poser des questions, on peut dire nos hésitations, nos refus, nos croyances, notre recherche.
Bien sûr, y compris une approche évangélique, en fait, hein, parce que chacun peut se sentir à certains moments un petit peu piétiste, un petit peu mystique, un petit peu libéral, en fait. Hein. Voilà.
Voilà. Bien, écoute. Alors, en fait, je pensais aussi aux cartouches d'Évangile et Liberté, mais qui n'est pas repris aujourd'hui dans ce courant, mais enfin, qui dénote bien cet état d'esprit. La primauté de la foi sur les doctrines, la vocation de l'homme à la liberté, la constante nécessité d'une critique réformatrice, la valeur relative des institutions ecclésiastiques, notre désir de réaliser une active fraternité entre les hommes qui sont tous, sans distinction, enfants de Dieu. Merci Jean-Claude, à bientôt, au revoir.
À bientôt Michel.